Tov Likoulam, on revient donc dans notre étude du livre de Bereshit et nous sommes au chapitre 4. Chapitre 4, verset Tête Zain. Donc si je ne m'abuse, on a parlé de Caïn et Evel. Ron, on a parlé de ça la semaine dernière. Et on a expliqué donc qu'il y a, qu'on va apprendre, on va essayer du moins d'apprendre à Caïn le libre arbitre. On a vu la différence entre Caïn qui se sentait un acquis par rapport à Evel qui pensait à l'autre. Finalement, Evel meurt sans laisser de descendants. Ce qui laisse à penser, à partir de là, que l'héritier de l'histoire humaine, c'est Caïn. Ok ? Seulement, on a dit que comme il a tué Evel, il est Chayav Galout. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas devoir maintenant être nomade. C'est le propre de la Galout. Parce que ben, tu es responsable de ce que tu as fait. Même si tu as des, on va dire, des netune ptikha, c'est-à-dire que tu as des bases qui vont te faire avoir un caractère plus comme ci ou plus comme ça, tu as quand même le libre arbitre de choisir de te laisser aller à tes pulsions ou pas. D'accord ? Donc à partir de là, Caïn s'en va et il va décider, il a bien compris que maintenant il pouvait décider de son destin. Et si Akadosh Baruch Hu lui a dit « Tu dois être nomade », ça ne veut pas dire que lui, il va le respecter. Ok, alors allons-y. « Vayetze Caïn midifne Hashem, vayeshev be'eretz nod kidmat Eden. » À l'est d'Eden, mais surtout, il va s'installer. « Vayeshev ». On vient de lui dire qu'il ne pouvait pas être un sédentaire. Et pourtant, lui, il veut s'installer vers ses tetzayn. Merci. Il veut s'installer dans le pays de la nomaditude. Beretz, Nod. Mazen Nod, ça vient du mot Lanoud, Vanad. Na Vanad, Tiebaaretz. C'est la notion de nomade qu'on lui a dit juste avant. On lui a dit, tu seras un nomade. Lui, il dit, je vais m'installer dans le pays de mes migrations. Quel beau français. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, il n'accepte pas la décision d'Akadosh Baruch Hu. Il a compris que maintenant il a le libre arbitre pour ne pas l'accepter. Et il va décider de se créer sa propre lignée, sa propre histoire. Alors on va voir de quelle histoire il s'agit. Vayeda Caïn et Ishto, Vatar Vateled et Hanoch. Voilà, c'est pas mal ça. Alors je tiens à répéter ce qu'on a déjà dit des milliers de fois. Le nom qu'on donne à quelqu'un est important. Il veut dire quelque chose. Et d'autant plus quand on parle des balbutiements de l'histoire. Là, on va voir quels sont les noms donnés à la dynastie de Caïn. Et on va voir, on va essayer de trouver quel est le fil conducteur de cette dynastie. Donc, Vayetze Caïn, et Vayda Caïn et Ishto, Vatar Vateled et Hanoch. Donc, le fils de Caïn s'appelle Éducation. Ou alors, Chinour. Ou alors, Inauguration. La Hanoch, Hanouka. C'est inauguration. C'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire que Caïn veut éduquer à une nouvelle chose. On veut inaugurer une nouvelle humanité. Ce que papa et maman ont mis en place, ça ne me va pas. On va créer autre chose. Et qu'est-ce qu'on va créer ? Vayi boné ir. Vayi krashem ha'ir keshem beno chanor. Caïn vient de construire la première cité humaine. Alors, combien elle mesurait, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais il appelle sa ville Hanoch, comme son fils. Tov, c'est bien ou c'est pas bien? C'est-à-dire que si maintenant il crée une ville, où est-ce qu'ils habitaient les gens avant? Dans la campagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette différence entre ville et campagne à l'époque. Mais disons qu'on est beaucoup plus proche de la nature quand on n'est pas dans la ville. C'est quoi la ville? C'est se créer une protection qui n'est pas naturelle. On n'est pas obligé de regarder dans la Torah. Les hommes, quand on regarde l'Odyssée de l'espèce, téléfilm, documentaire, en moitié en image réelle et moitié en image de synthèse, qui m'avait subjugué dans les années 2000 sur France 2, qui nous révélait l'Odyssée de l'espèce depuis Lucie jusqu'à l'Homo sapiens. Eh bien, les hommes, ils habitent où au début ? Dans des cavernes. Parce qu'on cherche à se protéger du soleil en été, de la pluie en hiver. Mais on va chercher un endroit qui est déjà là. construire une ville, c'est décider qu'à partir de maintenant, je ne me satisfais plus de ce que Dieu m'a donné, je vais me construire ma protection. C'est bien ou c'est pas bien, bah, ça va dépendre de ce que tu vas en faire. Par contre, une chose est sûre, ça t'éloigne du Créateur. Ok? Donc, va y bonne ir, va y krashem ir, keshem beno, chanor. Et là, ça devrait déjà nous mettre la puce à l'oreille. Parce que la ville et le mec portent le même nom. Seulement, l'homme, c'est quelqu'un, et la ville, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'au travers de l'homme, je peux découvrir l'infini par sa personnalité, alors que par l'objet, la ville, je suis limité à l'objet. Si je vais maintenant dire que la ville et l'homme, c'est la même chose, de deux choses l'une, soit j'ai élevé la ville au niveau de l'infini, c'est plus ou moins ce que notre civilisation, elle prône, de dire que la ville ne devrait pas s'arrêter, on est en train de complètement industrialiser la planète. On ne se pose pas vraiment la question, je ne suis pas en train de faire du tout un cours d'écologie, ce n'est pas le débat, mais est-ce qu'on se pose beaucoup la question de savoir où sont les limites de l'urbanisation? D'un autre côté, ça veut dire qu'on descend aussi l'homme au niveau de la ville. Et il n'est plus qu'un numéro de sécu qui va devoir avoir une adresse et un compte en banque, ainsi de suite. Encore une fois, je ne suis pas en train de parler contre la société occidentale. J'ai rien contre, enfin si, j'ai plein de choses contre, mais je suis tout à fait aussi pour cette société occidentale. Je dis simplement qu'il faut réfléchir au niveau moral, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que ce n'est pas un copier-coller des balbutiements de l'humanité? Et on est en train de nous dire, Caïn, la première chose qu'il fait, c'est d'un côté de faire en sorte que la ville remplace la nature et que l'homme est au niveau de cette dite ville. Ok? Alors ensuite, très bien, on va voir si ce que j'ai dit est vrai. Vaïvaled le Chanor et Irad. Alors c'est qui le fils de Chanor? Il s'appelle Irad. C'est quoi Irad?
Descend.
Alors c'est Vada qu'on voit le mot Ir dedans, bien sûr. C'est soit, tu as raison, c'est les deux. C'est Irad. C'est-à-dire que la ville nous fait chuter au niveau moral. Mais c'est également Irad, la ville pour l'éternité. La Had. Ok, c'est-à-dire qu'il y a ici une humanité qui est en train de se de chuter au niveau moral, mais qui met comme porte-étendard la ville. Plus tard, on verra qu'on va élargir ça à un pays. Il y a même des gens qui vont dire que l'individu n'a aucune importance. Seule importance, c'est un peuple, un Reich et un Führer. D'ailleurs, c'est ça qui est important. Lorsque la ville devient plus importante que les gens qui y habitent. C'est-à-dire, c'est Bahaya. Est-ce que nous, on tombe dans ce Bahaya-là? Est-ce que le peuple juif, il tombe là-dedans?
Il risque.
C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'aurait pas une ville qui, pour nous, est mise que sur un piédestal et qu'on lui donne un statut tout à fait particulier? Ah, Yerushalayim, nakhon, Jérusalem. Alors, est-ce que Jérusalem ne serait pas le risque de tomber dans le caïnisme? Non. Parce que pourquoi Jérusalem a cette place pour nous? Parce que c'est là que Dieu a choisi d'être. C'est-à-dire qu'on est à Jérusalem pour rencontrer quelqu'un. On n'est pas à Jérusalem stam pour être à Jérusalem. On est à Jérusalem pour rencontrer quelqu'un. Ça a l'air? À tel point que y a une dame un jour...
Hein? Personne s'appelle Jérusalem.
Personne s'appelle Jérusalem. Non. Jérusalem, ce n'est pas la personne que tu rencontres. Ah, tu dis par rapport à Chanor. Ah, excuse-moi, autant pour moi. Oui, mais comme tu dis, il y a des gens qui s'appellent Shalem. Il y a des gens qui s'appellent Tzion. Je ne suis pas tellement pour donner des prénoms de lieux. C'est vrai que ça peut évoquer un petit problème. À Jérusalem, tu es là pour rencontrer Ribono Shalola. Ribono, de rencontrer quelqu'un. J'ai rencontré, moi, une fois, une dame qui tient une galerie d'art à Tel Aviv, et j'étais avec Taglit, machin, et on est passé. Elle dit: vous venez d'où? Je viens de Jérusalem. Elle dit: Ani lo dorechet birushalayim. Moi, je ne mets pas les pieds à Jérusalem. Alors, je lui ai dit: la malo. Elle me dit: parce que j'ai grandi à Jérusalem. Je lui ai dit: ok, et ve. Elle me dit: quand je marche à Jérusalem, j'ai l'impression de marcher sur le visage de quelqu'un. donc je ne vais pas à Jérusalem. Caché l'imidaï. C'est ça ? Bon, Yerushalayim, chéyé. Donc, on a ici un irad. Ce n'est pas tellement positif. Veirad yalad et mechouyael. Ah ! Le fait d'avoir chuté moralement, de s'être éloigné du Créateur et d'être la ville pour l'éternité, a engendré un homme qui s'appelle « On va effacer Dieu ». Mechou, limchot, et el. Mechou, yael. Ah ah, bah oui, j'en ai plus besoin, j'ai ma ville. Le problème, c'est que quand tu effaces quelque chose, il reste encore la trace de ce qui était marqué. Donc, si tu veux t'émanciper complètement, ou mechiael, yala d'et metouchael. Lintosh, abandonner complètement. Ou alors également, metou. Il est mort. Dieu est mort. J'étais à son enterrement, disait Zarathustra.
Et comment ça se fait qu'entre le premier Mechouyael et le deuxième
on a changé en chirique. Ça, c'est un problème de grammaire par rapport à la place du mot.
C'est vrai, pourquoi il n'y a pas de verbe dans le deuxième?
Non, il y a marqué Mechouyael et là, il devient Mechiael.
Ouais.
Alors peut-être que Dieu, il est un peu chosside. Peut-être il est galitien, tu comprends? Alors, tu sais bien que les Galéthiens, ils ne disent pas le « ou », ils disent le « i ». Il y avait marqué « mechouyael », il a dit « mechiel ». C'est « choliot ». Ou alors, simplement parce que c'est un problème de grammaire, qu'en fonction de la place du mot dans le verset, on doit changer la prononciation. Donc, « metouchael », c'est terrible. « Metouchael », c'est déjà plus « on a effacé ». On a déraciné Dieu, on l'a abandonné complètement. Ou « metouchael », il y a là d'être la mère. Lui, il a un bonhomme qui s'appelle Lemer, la mère. Là aussi, là, il va devenir Lemer. L'homme chanel. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?
Dans la traduction, Metouchael, il est viré complètement.
C'est-à-dire, comment ils ont traduit le verset Yutré ?
Ouais. Qui engendra la Mecque, direct.
Non. Oui. Dis-moi le début du 18.
Alors, le début du 18. Attends. Que je vois où c'est. Enoch, oui.
Quoi?
Enoch, le début du... Non, ça c'est 19.
Comment ça?
17, attends. Je vois pas les numéros. 18, c'est là. Renor devint père de Irad.
Ouais.
Celui-ci engendra Mehuyahel, qui engendra la Mecque.
C'est incroyable. C'est pas mal, hein?
Hein?
Et comme quoi, quand je vous dis que la falsification de la traduction, là c'est quand même pas mal, hein? Bon, je pense que c'est plus une erreur... que volontaire.
Non, c'est pas une erreur, ça.
Tu crois que c'est volontaire, ça?
Complètement.
Top.
Parce que c'est vraiment...
C'était copain, ça. Bekitsour, bon, écoute, qu'est-ce que je te dis? Ils envoient un mail.
Non, j'en vois rien.
Mais
c'est
France.
Intéressant, quand même.
Donc, là, on a un enfant qui s'appelle Lemer. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce bonhomme? Eh bien, d'abord, il n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire quoi, il n'est pas dans le bon sens? Ben, il aurait dû s'appeler... Meler. Eh oui. C'est-à-dire que l'homme, il a trois grandes forces qui le dirigent, qui s'appellent, dans le langage de la Torah, Moach, Lev, Kaved. Meler. Moach, c'est l'intellect. Lev, c'est les sentiments. Et Kaved, c'est les tripes, les kishkes, les intestins, les pulsions. Dans quel ordre l'homme doit-il gérer sa vie? Dans l'ordre Meler. C'est la tête qui prend les décisions, même si elle laisse sa place aux sentiments et qu'il a aussi des pulsions. Mais au final, c'est la tête qui gère. Ben on voit que l'émer, il a un problème. C'est le lev, le lamed, le cœur, les sentiments qui sont d'abord. Ce qui va l'amener à faire quelque chose. Il est le premier à le faire. Regardez ce qu'on nous dit. « Vayikar lo l'émer shte nashim » Les mères a pris deux femmes.
Il en aimait deux, quoi.
Alors, je te rassure, ils avaient tous 2, 3, 4, 12, je ne sais pas combien, mais ils avaient tous plusieurs femmes. Sauf que, pourquoi ils avaient plusieurs femmes à l'époque?
Pour reproduction.
Ben oui, pour avoir plus d'enfants. Plus t'as de femmes, plus t'as d'enfants. Pas shoot.
Et lui, c'était pas le
cas. Eh ben non. Lui, c'est pas pour ça. C'est pour ça que c'est le premier du genre. Regardez ce qu'on nous dit. Vaïkar lo les mères shte nashim, shem ha'achat adda, ve shem ha'sheni tzila. La première s'appelle Ada, ce qui veut dire... Alors, Ada, en araméen, ça veut dire, les Edot, ça veut dire, on ne dit pas ça en hébreu moderne, c'est le fait d'être enceinte. Tzila, comme son nom l'indique, c'est l'ombre. Il y en a une qui est censée être enceinte et l'autre qui est censée rester dans l'ombre de la mère, sois belle et tais-toi. Rashi va aller plus loin et va nous citer le Midrash en disant que tous les soirs, il faisait prendre à Tzila un contraceptif. Eh oui, à l'époque.
C'est
salaud, ça. Hein ? Regardez, je n'invente rien, hein, a priori. Regardez. Hein ? Attends, où est-ce que c'est marqué celui-là ? Je ne vais pas te...
Iné.
Shte Nashim. Rashi qui dit Shte Nashim dans le verset 19. Il y a marqué Kach haya darkan shel dor amabul. Achat le piria ou rivia ve achat le tashmish. Il y en a une pour avoir des gosses et l'autre pour s'amuser en boîte. Et après la boîte. Ok ? Et alors il nous dit, ben alors qu'est-ce qui se faisait ? Zo shei le tashmish mashka kos shel akarin. Il faisait boire un verre de contraceptif, de acarine. Alors, comment c'était fait, hein? J'imagine qu'à l'époque, c'était des plantes. J'imagine qu'ils avaient trouvé une combinaison de plantes qui devait certainement bloquer plus d'enfants. Mais justement, pour séparer l'éthique et l'esthétique. C'est pas régulé, parce que Ada, elle peut en avoir 20. C'est juste qu'il faut que j'en ai une qui reste toujours belle. J'en ai une, c'est pas grave parce qu'elle n'est pas belle, parce que de toute façon, c'est pas avec elle que je sors, mais elle aura des gosses. Hein, ça, tu trouves que ça a changé ?
C'est très moderne.
Je sais pas, il y a des gens... Hein, on connaît l'histoire de la crise de la 40, 50, soixantaine. Hein, au lieu de rester avec une femme de 60 ans ou de 50 ans, on en prend deux de 25. C'est un peu chaud. Mais Kitsour, donc ici on a un vrai problème. On commence à séparer l'éthique et l'esthétique. C'est-à-dire la profondeur de la vie et le cadre de la vie. Donc on voit ici une génération qui est en train de chuter complètement. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ce lemmer-là, il en a plus d'un tour dans son sac. Va-t-elle aider Ada ? Ça, c'est normal. Ada, on nous dit qu'elle a enfanté un enfant. C'est normal, c'était pour ça qu'elle était là. Qui elle a enfanté ? Est Yaval. Yaval. Attends, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait encore, Yaval, mais le nom. Est-ce qu'il ne me ferait pas penser à un autre nom que j'ai déjà vu ? Hein ? Quoi, au Liban ? Non, mais de ce qu'on a déjà vu de là.
Tu as pensé à
Ben oui, Yaval. On entend Hevel un petit peu. Et effectivement, Yaval, il va reprendre les qualités de Hevel, mais il va les caïniser. Les caïniser. Il vient de la famille de Caïn. Donc, qu'est-ce que c'est ? Le Midrash nous explique que Hevel, enfin, le Midrash, que je raconte, la Torah nous dit quel était son métier à Hevel. On se rappelle, il était... Non, le métier de Hevel. Il était Roetzon. Il était berger. Il avait son troupeau à lui. Non, Yaval, c'est Hevel en mode Caïn. Caïn, il fait des villes. Caïn, c'est l'industrialisation. Donc Yaval, Ouaya Avi Yoshev Oel Umikne. Il est le père de tous ceux qui ont des troupeaux. C'est plus un simple berger. Il a inventé l'économie. Nahan, c'est un chef d'entreprise. Il est inventeur de l'économie. Ensuite, Vachem Achiv, Yuval. Là aussi, j'entends Hevel. Mais Yuval, lui, alors le Midrash, par contre, là, pour le coup, nous dit que Hevel, bah, comme un bon berger qui se respecte, il avait sa flûte. Sauf que, attention, lui, il avait une flûte. Yuval, Ouaya Avi, Kol Tofes Kinor Veugav. Il est le père de tous ceux qui tiennent un instrument de musique. Il est, pas seulement chef d'orchestre, il est l'inventeur de l'art. C'est-à-dire que c'est plus seulement un mec qui joue de la musique. C'est on en fait un mode de vie. Vetsila, Gamhi, Yolda. Oups! Elle n'a pas dû prendre son verre de la Karine. Elle a eu aussi un gosse. C'était pas prévu. Gami Yalda est Tuval Kain. Tuval, Hevel, Kain. Bon, Tuval Kain, c'est qui? Lui, il est Lotesh Kol Choresh Nechoshet ou Barzel. Il invente l'industrie. Il est celui qui est le père de tous ceux qui savent manier une forge. C'est le forgeron. Mais il n'est pas seulement forgeron. Il est le père de tous ceux qui vont utiliser, la technologie. Pour l'époque, ça s'appelle la technologie. C'est le high-tech de l'époque.
C'est une technologie.
C'est la technologie. Ouais. Donc, il est l'inventeur de la technologie. Comment est-ce que les Romains l'ont appelé Tuval Kain?
Vulcain.
Vulcain. Exactement. Ok.
Vulcain.
Le dieu Vulcain des Romains. Vulcain. C'est Tuval Kain. Ok. Ve'achot Tuval Kain, Naama. Ça veut dire quoi, Naama? Le kiff. Naïm. Le plaisir.
Donc, il y a eu une autre fille.
Il y a eu trois garçons et une fille. Ok. Maintenant, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on vient de poser les bases de la société humaine. L'économie, l'art, la technologie et les plaisirs. Et les plaisirs.
L'industrie. Économie et industrie.
Économie et industrie, oui. Une économie comme ci ou comme ça. Mais l'industrie, tu peux aussi la mettre en fonction de la en rapport avec la technologie. C'est-à-dire que ce sont les bases de la société humaine qui nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui. On vit dans une société où la culture est importante, où l'économie est... Et là, qu'est-ce qui se passe? Vayomer lemer lenashav. Il rassemble ses femmes et il dit, Adav et Tzila, Shema'an kolin eshe lemer, azena imrati. Le style a changé. Lemer va être le premier à chanter, ou du moins à faire de la poésie. La Torah est écrite en prose. Des fois, dans la Torah, il y a de l'écriture poétique. Qu'est-ce qui est plus grand, la prose ou la poésie?
Plus grand.
Ouais. Qu'est-ce qui révèle une plus grande profondeur du lien avec l'éternité?
La poésie.
La poésie? Pourquoi? Tu parles dans ta vie de tous les jours en poésie?
Je pense
que c'est quelque chose qui touche.
C'est quelque chose qui touche, si tu la comprends. Le problème de la poésie, c'est quoi? C'est que très souvent, on ne comprend pas vraiment ce qu'ils veulent nous dire. Il faut la lire deux fois, trois fois, 12 fois. La prose, c'est la façon dont on parle. Akadosh Baruch Hu, il a décidé de parler en prose. Parce que la grandeur, c'est justement d'être capable de se dévoiler également dans les choses qui ne sont pas hors du commun. Seulement dans la Torah, quand on n'arrive pas à parler en prose, alors on parle en poésie. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore au niveau de faire descendre ce qu'on a fait en prose. Alors on le dit en poésie. Et c'est ce qui se passe ici. Parce que l'émer va s'enorgueillir d'avoir tué quelqu'un. Caïn a tué quelqu'un, mais il n'a pas cherché à se glorifier. L'émer, regardez ce qu'il dit. Écoutez, femme de l'émer, à Zena Imrati, entendez ce que j'ai à dire. Qui isharakti lefitsi. Ça y est, j'ai tué quelqu'un. Je ne suis plus l'enfant de la Chaboura. Nous disent nos sages, qui l'a tué? Il a tué Caïn. Il a tué Caïn.
Son
Caïn, Chanor, Irad, Mechuyael, Metushael, Lemer, d'accord? Donc, on est à combien? On est à 6 générations. Il avait dit combien? Il a dit à 7e génération. Nachon. Qui a fourni l'arme pour tuer Caïn? Tuval Caïn. Tuval Caïn, donc on est à la 7e génération, parce qu'il est déjà né Tuval Caïn. Et donc voilà, Caïn est mort. Maintenant, il s'enorgueille d'avoir fait ça, d'avoir enfin tué le premier meurtrier. Sauf qu'en faisant cela,
il en devient
aussi. C'est-à-dire Ki shivataim yukan kaim velemer shivim veshiva. Ça, c'est ce que lui, il pense. Que Caïn, il a tué et on a dû attendre 7 générations pour le tuer. Alors, l'émer, il faudra attendre 77 générations. L'eau. C'est-à-dire Vayeda Adam od et ishto. Là, on passe du coq à l'âne. On nous parle de toute la généalogie de Caïn et tout d'un coup, on nous dit Adam a de nouveau connu sa femme. Lama. Pourquoi tout d'un coup? Ça se passe pas après les événements de l'Émer. Ça se passe bien avant. Ça se passe plus ou moins au moment où Caïn il est parti.
Pourquoi on le rapporte ici?
Donc pourquoi on le rapporte ici?
C'est ça.
Ben parce que jusqu'à présent, on pensait que le seul héritier de Adam, c'était Caïn. T'as vu où la dynastie de Caïn a mené? On arrive à la destruction, à la mort amenée par l'Émer. Donc c'est à ce moment-là qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Et on dit, non, sache qu'il y a une autre dynastie qui se crée. Vayeda Adam Od et Ishto. Va-t-elle être Ben? Alors, je vous passe les Midrashim. Les Midrashim nous disent que pendant 130 ans, Adam s'est séparé de Chava. Après la mort de Hevel, il s'est séparé de Chava et il a été voir Chava Arishona. C'est pour toi, c'est cadeau. Il a été voir la première Chava, tu te rappelles? La Chava qui porte un autre nom, qui commence par Li, et qui finit par Lit, et qu'on n'a pas le droit de dire son nom, c'est comme Voldemort. Han? Bah, chacun ses références, hein, j'ai envie de te dire. Lilith, c'est la mère des démons. Vas-y, les démons, les Shedim. C'est quoi ça? Vas-y, Shed. Alors, soit tu dis, parce que tu viens un petit peu de, comme mes amis, tu viens du Maroc, et à ce moment-là, tu penses que c'est des genounes, et tu leur donnes une réalité qui est beaucoup plus musulmane que juive, ou alors tu comprends qu'en fait, c'est quoi les Shedim? Ce sont des idéaux qui n'ont pas leur place ici, et donc qui sont extrêmement frustrés. Il y a, dans le dévoilement divin, des choses qui passent dans ce monde, qui doivent être le dévoilement de la volonté divine, et il y en a d'autres qui sont des dévoilements de Dieu, mais qui ne sont pas celles qu'on doit mettre, nous, en valeur. Je vous donne un exemple. Dieu, on peut le dévoiler soit par le bien, soit par le mal. Alors, c'est lui qui a créé les deux. Seulement Dieu, il ne veut pas qu'on le dévoile par le mal. Ainsi, si tu décides d'aller de ce côté-là, tu dévoiles une réalité qui est contraire à la volonté divine. Ça, ça s'appelle les chédis. La Gemara, dans Maseret Brachot, à la page 6, va nous expliquer comment on fait pour les voir, les chédis. Ah bah oui, peut-être que tu n'as rien à faire ce soir et que tu avais envie de voir les chédis. Alors d'abord, on te dit, si tu veux savoir qu'ils existent, qu'est-ce que tu fais? Et une technique très simple. La Ruyot. On parle des chédis, mais tout d'un coup, t'as vu? On te dit, c'est pas compliqué, tu mets autour de ton lit une fine couche
de farine.
De talc pour voir si
voilà,
tu ne fais pas.
On va parler de talc.
De farine.
Attention, bien tamisé, bien comme il faut. Et tu vas dormir. Tu ne te lèves pas au milieu pour aller faire pipi, ni pour aller boire un coup. Et tu verras le lendemain matin des pattes de coq.
Des quoi?
Des pattes de coq. Des empreintes de pattes de coq. C'est la preuve qu'ils sont là. Non, c'est pas de rats. Et c'est ce qu'on disait aux Ozéi. Ozéi, quand on voulait faire peur aux nouveaux venus, qui étaient encore très jeunes, on leur racontait l'histoire des chines d'Alet.
Mais vous êtes monstrueux.
Bien sûr. Et une fois que les enfants étaient en train de pleurer de peur, on leur finissait leur histoire en disant « Non, mais vous inquiétez pas, le camp est protégé. » Parce qu'on est en France et Rachi, il a fait une bulle protectrice autour de la France. Donc tant qu'on est en France, si tu mets les pieds en Belgique, c'est terminé.
C'est foutu.
Après, la Gemara te dit « Tu veux les voir ? Pas de problème. Tu vas prendre une chatte noire. Bechora. » C'est très important qu'elle soit Bechora. Elle-même, fille de chatte noire Bechora. Tu la tues, tu la brûles. Avec les cendres, tu mélanges à de l'eau. Ça va te créer une espèce de pâte. Non, non, non. Tu te prends un peu de pâte sur l'index et tu le mets dans l'œil. Ça te fait des lentilles d'une autre génération. Et là, tu vas les voir. Et là, tu vas les voir.
C'est sûr.
Ah, c'est sûr. D'ailleurs, la Gemara nous dit qu'il y a un des Amoraïm qui a essayé. Il les a vus et il est devenu malade. Il n'a pas supporté. Je sais que les Chachamim ont prié pour qu'il meure. Quoi, tu ne me crois pas?
Monique,
elle n'y croit pas. Eh bien, essaye ou pas. Au 20e siècle. Attends, la Gemara, elle va plus loin. Elle dit que là, tu en as là maintenant. Des centaines de milliers à ta gauche et des millions à ta droite. Des chédim. Si bien que va arriver au XXe siècle des rabbanim, comme par exemple, le dernier en date que j'ai entendu dire ça, c'était le Rav Adin Even Israël Shtenzalf. Ça vient pas de lui. Il a cité quelqu'un, je ne me rappelle plus de qui il a cité, que Ken, c'est les microbes. Les bactéries.
Bien sûr.
Hein, des centaines de milliers à ta gauche, des millions à ta droite. Et si on pouvait les voir, on ne tiendrait pas. Imagine, tu mets des lunettes qui voient les bactéries.
Oui, oui, oui.
Alors, on pèterait un câble. Non, à Zéchalot que c'est ça, les chédim dont on parle. Top. Le
Eder. Oui. Je te propose qu'on fasse une fois une visite, si ça tient encore, une visite avec toi.
Oui.
Au musée d'Israël.
Mais je vous en prie.
Il y a toute une exposition sur les chédim, sur les superstitions, sur les
petits dessins. Mais une permanente?
Non, je crois que c'est,
non, c'est temporaire.
Ah, c'est temporaire. Eh bien, alors, il faut y aller temporairement, alors. Mais non, mais dis-nous quand on peut y aller. Regarde les trucs avec plaisir. Comme ça, on peut faire et les chédim et le reste du truc qui est permanent.
Parce que c'est très intéressant.
Eh bien, allons-y.
De le voir
avec une
vision juive.
Ben, ça y est. Bon, là, en tout cas, c'est pas ce qui nous intéresse. Parce que ce qui nous intéresse, c'est justement pas les choses qui doivent pas se dévoiler, mais au contraire, les choses qui doivent être dévoilées. Donc, Adam va avoir un fils.
Moi, j'ai une question. Comment on sait qu'il a été chez Lilith pendant tout ce temps-là?
Le Midrash.
Comment on sait?
Le Midrash.
Quoi? Tout le reste.
Pourquoi est-ce que le Midrash raconte des choses que la Torah ne raconte pas? Ou alors, on va le faire à l'envers. Pourquoi la Torah, il y a certains trucs qu'elle ne raconte pas? Eh bien, tout simplement parce que la Torah a une vocation et le Midrash en a une autre. La Torah vient nous expliquer comment, la Torah écrite je parle, la Torah écrite vient nous expliquer comment Dieu se dévoile à travers l'histoire et à travers le peuple juif. Toutes les choses, les enseignements qui n'ont pas cette vocation-là ne sont pas dans la Torah, mais sont dans la Torah orale, en l'occurrence le Midrash.
Qui n'est pas faite pour être pris à la lettre.
Alors, le Midrash, comme son nom l'indique, n'est que la moitié d'un drash. C'est un Midrash. Ben évidemment, c'est un midrash. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il doit être pris au pied de la lettre? Tous les midrashim sont vrais, mais ils ne sont pas forcément historiques, pas forcément scientifiques, et pas forcément au premier degré. Mais ils sont tous vrais. Mais il y a une grille de lecture qui est celle du midrash. Des fois, le midrash nous raconte simplement des scènes qui étaient coupées dans la Torah, mais qui sont des scènes de vie concrète. Ça existe aussi dans le midrash. Mais le midrash n'est pas que une photo réelle de ce qui s'est passé dans la vie physique. D'accord ? Quand le Midrash nous a dit, dans la création, que le soleil et la lune se sont disputés parce qu'ils étaient de la même taille, c'est évident qu'il ne s'agit pas ici d'une discussion astronomique. Ok ? C'est ce qu'on veut nous enseigner, nous faire comprendre. Le Midrash parle énormément par langage symbolique. Ok ? Donc, finalement, il faut créer une nouvelle dynastie. Vayeda Adam od et ishto. Va-t-elle être Ben? C'est le premier. C'est la première fois qu'on a un fils. Vous vous rappelez que jusqu'à présent, à chaque fois, on enfante déjà avec le nom du mec. Vous vous rappelez que Caïn va-t-elle être Caïn? Là, pour la première fois, va-t-elle être Ben? Qu'est-ce que ça veut dire Ben? Ne me dites pas un fils.
Construction.
Bidouk, Binyan.
Binyan.
Donc on est en train de construire quelque chose. Va-t-elle être Ben? Va-t-il et Shemo Chet? Chet, ça veut dire quoi Chet? Oui, stable dans le sens fondation. C'est-à-dire comme Even Ashtia, la prière de fondation. C'est quelque chose de très très ancré, de très fort, de très premier. Donc va-t-il et Shemo Chet? Qui chatli Elohim zera acher tachat hevel ki arago kain. En d'autres termes, Chet, c'est un hevel 2.0. C'est un hevel qui n'a pas les faiblesses de hevel et qui saura donc faire face à Caïn. Il est là pour remplacer hevel. Ok ? Il y a dans en Afrique du Nord, et particulièrement en Tunisie, il y a des gens qui portent le nom Khalfon.
Khalfon.
Alors pas que les noms de famille, mais des prénoms.
Non.
Si, par exemple, en Tunisie, il y avait Rabbi Moshe Khalfon à Cohen. Maintenant, Khalfon, ou alors à Bagdad, en Irak, c'était plus Mahlouf.
C'est pareil.
C'est pareil, Khalfon, Mahlouf, Otodava.
Mais ça veut dire quoi?
Ben ça veut dire quoi? Si tu sais. En hébreu, ça se donne Mahlif.
Remplaçant.
Un remplaçant. En général, quand ses enfants ils avaient ce nom-là, c'est parce qu'il y a eu un grand frère qui est mort. Il y a eu un enfant qui n'a pas tenu, machin, nanana. Et donc on a donné le nom Khalfon pour le remplaçant. Je sais que Philippe, il n'aime pas du tout quand je dis ça de Rabbi Moshe Khalfon à Cohen. Qui Rabbi Moshe Khalfon, il n'aimait pas qu'on l'appelle Khalfon. Vous voyez qu'on l'appelle Rabbi Moshe à Cohen. Ça, non. Donc là, on a besoin d'un remplaçant à Evel. Ine, ou le chet, gamhu yulad ben, vaikra et shemo enosh. Donc il s'appelle comment? L'humanité. L'humanité. Il est le petit-fils de Adam. Ron, az uchal likro beshem Hashem. Ce qui veut dire, il a commencé à invoquer le nom de Dieu. Nous dit la Gemara, le Ramba, mais on entend aussi le mot chol, chulin. Ma, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ou en fait, ils ont commencé à vouloir rendre un culte à Dieu. Jusqu'à présent, on ne voit pas de gens qui ont voulu rendre un culte à Dieu. Dans la généalogie de Caïn, on se sépare de Dieu. Et Adam, on n'a pas vu qu'il avait fait quoi que ce soit. Alors, ses enfants, ils ont fait un sacrifice, ça n'a pas bien fini. Finalement, Evel a pu. Et Caïn, bah, tu vois qu'au fur et à mesure, il veut se détacher. Donc, on voit ici qu'il veut créer quelque chose. L'Ikro Bechem Hachem. C'est à fait. Maintenant, comment ils ont fait? Ben, ils ont commencé à dire, regardez. Regardez-moi ce soleil extraordinaire. Quelle lumière, quelle chaleur. C'est fantastique. Faisons un temple du soleil. En se rappelant bien qui a créé le soleil. Car en rendant hommage au soleil, on est tous conscients qu'en fait, on rend hommage à Dieu. Et nous dit le Rambam, mais au fur et à mesure de génération, ils ont oublié qu'en fait, ils font un hommage en fait à Dieu. Et c'est devenu la Avodah Zarah qu'on connaît. Dans la Tfila, on dit « Ata chonen le Adam da'at ou melamed le enosh bina ou bino. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi à Adam on a besoin de lui donner da'at et à enosh bina? Semble-t-il que ce qui a manqué à Adam, bah, c'est da'at. Et uchata be'etz a da'at. Mais à Enosh, il a manqué Bina. Mazé Bina. C'est pour ça qu'on lui dit, va tachonen Adam da, va mlamed le Enosh Bina. Bina, comme vous le savez bien, c'est un masculin ou un féminin? Féminin. De quel mot?
Yavin.
Non, ça c'est le. T'as raison, c'est le verbe.
Oui.
Et c'est le féminin de quel mot?
Ben.
Bein, avec un yud. Pas Ben, un fils. Bein, nachon. Donc, c'est quoi la bina?
Le
discernement. La capacité de faire la différence entre les choses. Eh bien, c'est ce qui a manqué à Enoch. Parce que s'il avait fait preuve de bina suffisante, ben, il n'aurait pas été uchal likro beshem Hashem. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il n'aurait pas commencé à invoquer. Commencer et pas fini. C'est-à-dire avoir une perception partielle du divin, ça s'appelle l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il va faire beaucoup plus tard, Avraham? Ou koré beshem Hashem? Ou l'eau, matril l'icro. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai commencé en disant, il a commencé à invoquer le nom de Dieu. Ouchal, mais la chaîne, notre Allah. Lamas lo madbikim.
On lui colle quelque chose de négatif.
C'est pas qu'on lui colle quelque chose de négatif. Il a fait quelque chose qui a eu une conséquence négative. Maintenant, ça ne veut pas dire que lui, il avait des mauvaises intentions. Il n'avait pas de mauvaises intentions. Mais c'est kara, mala asot. Ok ? Mais on voit quand même qu'on est dans une famille qui a un rapport complètement différent avec Dieu par rapport à la famille de Caïn. Alors, Enoch s'est trompé, mais il s'est trompé parce qu'il voulait faire bien. Alors, regardez la suite. Iné. Où est-ce que je suis ? Iné. Ze sefer toldot Adam. Beyom baro Elohim, Adam bidmut Elohim asa oto. Pourquoi est-ce qu'on nous dit maintenant, voilà les engendrements, c'est les engendrements de Adam ? Parce qu'on veut te dire que les engendrements d'Adam, ça va passer par la famille de Chet. Tu me demandais tout à l'heure d'où on sait qu'il s'est séparé de... Ben on te dit ici que c'est seulement quand il avait 120 ans qu'il a enfanté de Chet. Donc c'est là que le Midrash se pose la question, il dit, il a fait quoi pendant toutes ces années ? Hein ? Ben voilà. D'accord. Adam. D'ailleurs, vous avez remarqué que Chet, il est lui aussi Betzelem Elohim. C'est en cela qu'il devient l'héritier de Adam. Adam, il a été créé Betzalmo. Et là, de Chet, on nous dit qu'il est aussi Betzalmo. Ok ? Vayu ימי אדם אחרי הולידו את שת 800 שנה ויולד בנים ובנות. Il a vécu encore 800 ans après avoir eu Chet et il a eu plein de gosses. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qui c'est ? Parce qu'on s'en fiche. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est les enfants par qui vont passer, par qui va passer l'histoire. Mais quand on lit ce verset pour la première fois, on se pose la question, 930 ans ? Parce qu'on va nous dire, Vayu kol yeme adam asher chay, tesha meot shana ou shloshim shana vayamot. Et là, je pose la question de base. 930 ans ? Il a vécu 930 ans ? Sheela, vous y croyez ou vous y croyez pas ? Alors, moi, je suis obligé d'y croire, je suis le rabbin. Mais est-ce que je vais essayer de trouver une pirouette en disant, mais c'est peut-être pas les mêmes années, tout ça.
C'est pas une dimension.
Le problème, c'est que la Torah va utiliser les mêmes années pour Chet, pour Adam, que pour nous, Shlomo, David, ce que tu veux. Donc, j'ai pas vraiment le choix. Il y a un bouquin qui est antérieur à la Torah, qui s'appelle So When. So when. Ce n'est pas de l'anglais. C'est du chinois. C'est le bouquin qui a été écrit par l'empereur jaune. L'empereur jaune, c'est un des premiers empereurs connus historiquement de la dynastie chinoise. Ça remonte à près de 5000 ans. C'est pas mal, l'empereur jaune. Et l'empereur jaune, donc, il écrit So When. C'est un dialogue entre lui et son maître à penser qui est son médecin. Plein de choses qu'on ne comprend pas dans leur truc, mais il y a un moment donné, il y a un truc sympa dans le bouquin, c'est qu'il demande à son médecin, « Ta guide !» Peut-être pas 5000 ans, peut-être 4000 ans, je ne sais pas, je vais vérifier. Mais c'est vieux, c'est antérieur à la Torah. Et il dit à son médecin, « Dis-moi, comment se fait-il que nos ancêtres vivaient des centaines d'années et nous, même pas 100 ans ?» C'est notre question. Comment ça se fait que nous, on te dit 120 ans, et là, on te parle de 930 ans ? Réponse du médecin. Ah, mais ça, c'est très facile, c'est très simple. C'est parce que nos ancêtres se nourrissaient par les yeux, et nous, on se nourrit par la bouche. Bon, le problème, c'est que, a priori, biologiquement parlant, on ne s'est jamais nourri par les yeux. Sauf que, quand je regarde la fin du Talmud et la fin du Yad HaZaka, du Rambam, qui va citer le Talmud, on me dit que c'est quoi le top du top de l'Atid Lavo, le top du top de après. Je te dis, tzadikim yoshvim, ve'atrotehem berashehem, ve'ne'enim miziv ashrina. Et ils sont nourris par l'éclat, les rayons de la shrina. Non, pas quand ils sont morts. Non, pas quand ils sont morts. Alors, c'est trop facile. Il semblerait que quand tu es nourri, mazé la vie. Aujourd'hui, les êtres humains, on se nourrit pour avoir de l'énergie, transformer les aliments en énergie et pour vivre. Mal ou pas mal, je ne sais pas, mais du moins, la nourriture, c'est ce qui va permettre de transformer les aliments en énergie, qui va me donner de quoi vivre. Alors, si on trouvait le moyen de me donner des années de vie, de me donner de la vie, pas par des aliments, mais par autre chose. On ne sait pas ce que la science elle peut faire. On n'en sait rien. Moi, il y avait une... mon père est un fan de science-fiction. Il nous a donc initié à cela. Il y avait une série dans les années 2000 qui s'appelait Stargate. Et dans la deuxième version de la série, il y avait un méchant terrible qui se nourrissait. Ils avaient un trou dans la paume de la main. Et en fait, ils mettaient la main sur le corps d'un autre être humain et ils lui aspiraient toutes les années de vie. C'est pas mal, hein ? Pourquoi pas ? On ne sait pas ce que la science va être capable de faire. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans le débat scientifique. Je dis simplement que la vie, elle nous vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc si Akadosh Baruch Hu, il nous nourrit par son de Shrinatit, rien ne nous empêche de dire qu'on peut vivre des centaines d'années. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, notre vie ne soit basée uniquement sur la structure cellulaire et de comment nos cellules elles se reproduisent ou pas reproduisent, ou elles marchent ou elles ne marchent pas, c'est parce que on vit dans une réalité où la présence divine, elle n'est pas là. Et même quand elle est là, elle ne nous nourrit pas au quotidien.
Le nefesh peut vivre comme ça.
Quoi ?
Le nefesh peut vivre sans manger.
Sans manger. Mais le problème du nefesh, c'est qu'il est dans un corps. Ouais. Tant qu'il est dans un corps, on a besoin de manger. Mais qui nous dit qu'à l'époque de Adam, de Seth, eh bien, la proximité avec la source de vie était beaucoup plus grande et donc il vivait beaucoup plus. Ce qui fait que moi, ça ne me dérange pas du tout de dire que Adam, il vivait 930 ans. Et quand tu me dis, ouais, mais attends, on a fait des études, parce que Adam, c'est il y a combien de temps ? C'est il y a, allez, 5000 ans, 5700 ans. Bon, on a fait des études sur des cadavres qui ont été datés à ce moment-là. Bon, en général, ils n'ont pas vécu plus que 40 ans, les mecs, hein. Comment ça, on ne peut pas savoir ?
Pendant les trous, on ne peut pas savoir.
Si, on peut. Si on peut savoir quand la vie a cessé dans ce corps-là. Avec des tests au carbone 14, avec la déstructuration, on peut voir combien de temps, à quel âge il était plus ou moins. Je ne suis pas un pro là-dedans, mais... Ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Par exemple, l'os qui a été retrouvé à Masada. À Masada, on a retrouvé un os de bras et une natte. Et ils ont fait les études sur l'os et ils ont pu voir que... Il semblerait qu'il y a d'autres choses. Non, on peut. Je ne peux pas t'expliquer à 100%, mais on peut. Ça a l'air. Donc, quoi ? 40 ans et toi, tu me dis 900 ans. Personne ne t'a dit que tout le monde vivait 900 ans. Ceux qui sont connectés à la source de vie, alors ok, les autres, non. Ça a l'air ?
Oui, mais 40 ans, c'était une moyenne.
Oui, non, il n'y a pas de problème.
Ceux qui meurent dans la guerre...
Je suis d'accord avec toi. Enfin, je ne sais pas quand, il y a 5000 ans combien de guerres il y avait, mais disons que tu as raison. La majorité des gens à l'époque, ils vivaient pas vieux, mais il y a peut-être des gens qui étaient des exceptions, qui, eux, étaient connectés à la source de vie, et donc ils vivaient beaucoup plus. C'est ça ? Donc ici, on voit que Adam, celui qui est censé le continuer, c'est Seth et sa famille. On a vu que Caïn, sa famille, avait prôné un éloignement du Créateur. On va voir que la famille de Seth, elle, au contraire, prône une connexion au Créateur. Mais ça, il faudra le voir la semaine prochaine. Zagro.